Bienvenue sur Double Flash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web.
Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Flash. Comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex.
Salut Patrick, salut tout le monde.
Donc épisode, alors on va pas faire de news dans cet épisode, on va parler de secrets et de variables d'environnement en fait, truc qu'on a au quotidien quand on fait du développement web. Voilà, donc les bonnes pratiques.
On va essayer de partager toutes les bonnes pratiques, malheureusement enrichies de toute l'actualité qu'on a pu voir sur ces derniers mois, des gros leaks. Et on voit en fait beaucoup de mauvaises pratiques s'installer au sein des équipes sur le partage de variables d'environnement, des tokens, soit pour les services, soit pour les configs, ou en tout cas toutes les données sensibles. Il y a quand même des règles à respecter. Et ce qu'on vous propose dans ce petit épisode, c'est justement de rebalayer un petit peu tous les bonnes pratiques et de voir comment on peut essayer de minimiser le leak, voire essayer de faire un truc tip-top pour être au top de la sécurité, même si l'intégrité absolue, c'est toujours difficile, mais en tout cas, on peut essayer d'y tendre et d'éviter... Des gros leaks comme il y a eu sur cet objet qui te tient à cœur, Patrick. Tu trouves cet objet
parfaitement inutile, mal codé en plus a priori, puisqu'ils ont mis les tokens ou je sais pas quoi, les ID en dur dans le code. Quelle bonne idée, génial.
Donc pour ceux qui nous écoutent, c'est l'objet qui s'appelle un Rabbit, le R1. En fait, où c'était un petit objet que tu colles que tu viens mettre dans ta poche et qui filme et qui enregistre à peu près tout et qui te donne un contexte de ta journée, tout. Et tu peux lui poser des questions et il écoutait, il fait la transcription et je crois c'est le token de la synthétisation vocale, je crois, qui a été leaké, tout, parce qu'il était écrit en dur, quoi. Enfin, c'est astronomique comme truc. Enfin, c'est lunaire, quoi. Totalement.
Bon, après, qui n'a jamais fait cette erreur? Moi, je l'ai déjà fait, hein, de balancer un truc en dur, sans faire exprès ou par méconnaissance, tu vois, peut-être au début, voilà, ça arrive, c'est arrivé.
Mais on l'a tous fait.
On l'a tous fait. Voilà, comme c'est ça, clair. C'est fait, on l'a dit. C'est bon.
On l'a tous fait et justement, on va essayer de brosser un petit peu tout le spectre des solutions qu'on a pour justement éviter de faire des trucs un peu à l'arrache. Mmh. Parce que ce qui est clair, c'est que la sécurité, c'est quand même hyper important et aujourd'hui, on ne peut pas dissocier notre travail avec la sécurité, quoi. J'ai encore eu des conversations avec un client sur l'hébergement et il me dit non mais il y a l'hébergement et il y a la sécurité. Mais en fait non, c'est intrinsèquement dans l'hébergement, quoi. La sécurité fait partie intrinsèque de l'hébergement. C'est comme si on disait on va vendre une voiture, mais vous savez monsieur, elle a des roues. Tu fais mais en fait c'est tellement inclus et c'est tellement transversal qu'aujourd'hui on ne peut pas en tant que développeur dire moi je m'en balèque, c'est bon, je m'en fous, allez YOLO, et on pousse et on pousse et on ne néglige la sécurité. Et c'est au quotidien, c'est vraiment mais vraiment vraiment au quotidien.
Ouais, de toute façon la plupart des failles sont souvent humaines, donc déjà à partir de là, c'est d'avoir des outils. Alors ça a beaucoup évolué parce que c'est vrai que je me rappelle plus comment on faisait en fait au début. Alors aujourd'hui ça s'est généralisé. Alors on parle directement dans les variables d'environnement. Aujourd'hui ça s'est généralisé avec le .env, mais je me souviens plus trop comment on faisait avant. Je pense qu'on faisait un fichier type PHP avec les variables.
C'était un fichier de config en fait. Tu vois, un fichier dit point .config et t'avais tout dedans.
On devait faire ça, je sais plus.
et ça passait. Par contre, t'avais ce fichier-là qui leakait
qui était
corrompu. Compliqué, quoi. Méga, méga compliqué, quoi. Après, il y a aussi un vrai sujet, c'est que potentiellement, en fait, ça vient en fait... donner de la friction en fait sur le déploiement et sur l'expérience utilisateur, parce que tu vas mettre plein de surcouches ou plein d'interfaces pour ces variables d'environnement, ces secrets, ces configs ou ces données sensibles. Et en fait, plus tu vas utiliser d'outils en intermédiaire, et plus ça va, c'est saoulant quoi, ça va être chiant. Ah ouais, j'ai pas les bonnes variables. Ah mais non, mais j'ai pas accès à cela, à tout. Donc en fait, il faut essayer de trouver un bon compromis entre respecter les consignes de sécurité et avoir une expérience utilisateur, ou en tout cas une expérience développeur la plus fluide possible, pour que ça soit quand même facile à utiliser et simple, et que ça soit pas vraiment la chienlit. Parce que si on met une friction, en tout cas une contrainte trop 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 forte, qu'est-ce que va faire le développeur? Et moi le premier, vas-y, je m'en fous, je vais te partager mon secret comme ça à l'arrache, ou je vais te l'envoyer sur un email ou sur un Slack et tout ça quoi.
Ça, c'est constant, ça. Ça, c'est tout le temps. Ça, c'est tout le temps. Allez, vas-y, on est pressé, envoie-moi le mot de passe. Et puis, hop, tu le reçois par email, machin.
C'est chaud, quoi.
Moi, des fois, il y a des gens qui t'envoient en deux emails, ça me fait un peu rire, mais.
Ouais.
Du style.
Alors, on pourrait
Bon, j'ai
déjà.
accès à tes emails et accès à tous les emails, donc bon, bref.
On pourrait
Bon,
déjà quand même. Ouais.
on commence par le béaba ou quoi? Pourquoi? Parce qu'on a quand même, je sais qu'on a quand même beaucoup de développeurs juniors, entre guillemets, ou voilà, qui. Alors, pourquoi on utilise aujourd'hui des variables d'environnement dans un projet, en fait? Et pourquoi la plupart des frameworks maintenant utilisent les points env, les variables d'environnement, tout ça. Voilà. Tu commences?
Carrément. Ouais, on peut attaquer tout de suite. Ce qui est sûr, c'est que ton code, il va être sur plusieurs machines, et il va être aussi exposé au public. Donc ça veut dire que une application JS classique, ou du PHP, ou qu'importe, enfin non, peut-être pas du PHP, mais en tout cas une application JS,
Logique.
elle va
Ouais.
s'exécuter en fait dans le navigateur. Donc potentiellement, tout ton code en fait est transporté dans ton navigateur. Donc, si tu as écrit quelque chose en dur dans ce code-là, en fait, potentiellement, quelqu'un qui va inspecter ton code va récupérer ses clés, quoi. Donc, en fait, tu vas vraiment, vraiment exposer des accès, parce qu'il se trouve aussi qu'aujourd'hui, on utilise de plus en plus de services tiers. Par exemple, Google Maps, par exemple, je sais pas, un token de Meli Search pour faire de la recherche. On
Ouais.
va utiliser un token pour quasiment tous les services. En fait, on va avoir un token. Ce token, il va avoir deux possibilités. Soit il est vraiment public. Et dans ce cas-là, en fait, il peut être exposé au public, parce que c'est juste ton identification. Donc ça, c'est pas gênant s'il est compromis, parce que la plupart du temps, je pense au token Google Maps, même s'il faut pas les divulguer, mais il est associé à un nom de domaine. Donc en fait, tu vas
Voilà,
pouvoir utiliser ce service-là, et en fait, ta clé ne fonctionne n'est rattachée que à ton nom de domaine. Donc, ton nom de domaine, en fait, est aussi une sorte de protection. Mais même si cette clé est publique, par définition, quand c'est marqué public, il faut bien comprendre que elle ne doit pas
C'est
être
visible.
sensible, quoi. C'est oui, on l'expose, mais on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, et c'est pas gênant. Mais en tout cas, parfois, on a besoin en fait d'avoir des clés privées pour accéder à des services tiers. Par exemple, pour les opérateurs bancaires, il nous faut notre clé d'authentification pour valider, pour demander une émission de paiement, ou plein de choses comme ça. Où là, pour le coup, le token, ça va vraiment être ton identification. Et dès qu'on parle d'argent, ça va être hyper, hyper critique. Donc là, pour le coup, on va être obligé de sécuriser et de cacher en fait ces variables d'environnement. Et donc aujourd'hui, tous les hébergements et les opérateurs qui exécutent ce code vont pouvoir en fait exécuter ce code-là en intermédiaire. C'est-à-dire, il va pas, l'information va remonter, ne va pas descendre jusqu'à l'utilisateur, mais va s'arrêter chez l'hébergeur, et c'est l'hébergeur qui va injecter cette variable au moment voulu du cycle de la requête, quoi.
Ouais, donc la sécurité, ouais, donc vraiment, ça permet d'avoir de stocker les informations sensibles. Il y a aussi, bah, comme tu l'as dit, aussi la flexibilité, en fait, le fait d'avoir différents environnements et donc différents systèmes d'hébergement, tout ça. Donc évidemment, en développement, bah, tu parles de mini-search, je vais avoir une base de données de recherche qui sera plutôt développement. Je vais m'amuser à faire des tests, machin, tout ça. Par contre, en production, bah, j'ai une base de recherche qui est production. Donc là, c'est la vraie où il y a tous les produits, tout ça, machin. Voilà, d'avoir vraiment sur la même base de code, en fait, différents points d'accès, que ce soit la base de données, la base mini-search ou le système de paiement. Parce que, par exemple, si tu prends Stripe, tu as une clé qui permet de faire des tests, et puis tu as une clé de production aussi. Voilà. Ouais. Ça permet vraiment de gérer ces différents environnements, en fait. Donc, et plus, c'est plus simple pour le développeur, quoi.
Après, il faut aussi bien différencier les informations critiques et la config. En fait, nous, en tant que développeurs, on va toujours essayer de faire un seul code source. Par contre, on va variabiliser les environnements avec des clés de config et des clés de vraiment environnement sensible, quoi. Et donc, en fait, parfois, il y a de plus en plus, en fait, de développeurs qui vont faire un fichier de config. Et en fait, c'est le fichier de config pour la prod et des fichiers de config pour le staging, pour le déploiement, pour le local. Où en fait, ils sont venus variabiliser tout ce qu'ils ont besoin qui est propre à l'instance à l'environnement, par contre. Et après, ils vont avoir un deuxième niveau de secret, en fait, où là, c'est vraiment toutes les données valeurs sensibles. Où là, ils vont mettre ça dans les variables d'environnement. Parce qu'à l'inverse, si on met tout sur les variables d'environnement, potentiellement, on va se retrouver avec un fichier d'environnement qui est énorme, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de variables. Donc, en fait, il faut bien trouver le juste milieu entre qu'est-ce qui relève de la config. Et dans ce cas-là, beaucoup de frameworks aujourd'hui ont des fichiers config où on va mettre de la config dedans. Et si c'est propre, si c'est public, on peut le mettre là-dedans. Si c'est sensible, on le met dans le fichier .env.
Ouais. OK. Et première bonne pratique pour tous ceux qui nous écoutent. Alors j'imagine qu'il y en a qui sont déjà habitués à cette pratique, mais on ne doit jamais mettre de token, de password ou d'ID ou d'identifiant ou ce que tu veux en dur dans le code. Donc, jamais faire comme Rabbit, le boîtier.
Ouais, exactement.
Exactement. C'est vraiment une pratique à adopter, même pour un petit projet, en fait. Voilà, on fait un point env, tac, on met tout dedans et on ne met jamais dans le code en dur, à part si vraiment, pendant 5 minutes, tu veux tester un ID, voir si ça fonctionne parce que ça bug, machin, bidule. Mais de suite, tu l'enlèves. Et si jamais, parce qu'en fait, avec Git, en fait, avec les outils de versioning, il y a un petit piège. Si jamais, par erreur, vous mettez un ID ou un token ou n'importe quoi et vous l'envoyez sur Git et vous vous dites, bon, bah, c'est bon, attends, je vais l'effacer, je commit, je push et c'est bon. Et en fait, non. Parce qu'en fait, ça reste dans l'historique. Donc, en fait, quelqu'un peut revenir dans l'historique et retrouver le token facilement, en fait. Et j'ai cru déjà entendre qu'il y avait des bots, en fait, qui parcouraient GitHub, tout ça, pour trouver tout ce qui était identifiant, token, qui pouvait traîner, en fait, sur les codes sources, en fait. Ouais. Donc potentiellement, si tu balances un truc sur GitHub, en fait, peut-être dans l'heure qui suit, il peut être vite attrapé par un bot, en fait, que ce soit un ID Google Maps ou un truc comme ça, tu vois.
Et donc, on peut quand même cleaner son historique Git. Ouais. Et on vous met justement un petit lien d'un article qui explique justement comment faire pour cleaner son historique Git si on a exposé de manière très très malheureuse des tokens sensibles. Il faut faire cette manip et je pense que au lieu de rien dire au CTO ou de faire style que ça va c'est passé, en fait je pense qu'il faut plutôt l'informer et dire ok, j'ai fait une connerie, soit, mais vas-y, comment on fait pour revenir en arrière et pour cleaner ça Et après, il y a toujours la possibilité de régénérer des clés. La plupart des services aujourd'hui, tu peux régénérer tes clés. Par contre, c'est hyper chronophage et ça prend beaucoup de temps, de ressources. Et personne n'a envie de faire ça, quoi. Surtout, personne n'a envie de faire ça, quoi. C'est pas top en termes d'expérience et de boulot à faire. C'est pas le plus gratifiant et le plus marrant à faire. Un autre point aussi qui est un petit peu annexe et on va dire connexe, c'est tout ce qui est tout simplement déjà password de service. Déjà, comment tu fais pour rentrer dans tes passwords, login, password, comment tu fais pour partager tes comptes?
La grande question.
Toi, tu fais comment, toi?
Moi, perso, j'ai 1Password. J'utilise 1Password, mais je vais certainement, on en discutait juste avant, passer sur ProtonPass. Parce que voilà, j'utilise déjà ProtonMail, qui est plutôt pas mal. C'est à côté, c'est pas loin de chez moi. Et voilà, ils ont ProtonPass qui est gratuit. ProtonPass, alors si vous n'avez pas de gestionnaire de mot de passe actuellement, je vous recommande ProtonPass puisqu'il y a une version gratuite qui permet déjà d'utiliser largement tous les systèmes de mot de passe, tout ça. Et puis après, voilà. Mais ouais, ça fait un moment que j'ai 1Password. J'avais bossé pour une agence je crois en 2017, un truc comme ça, qui utilisait 1Password et ils partageaient justement, moi j'étais externe, et ils me partageaient les mots de passe des services via 1Password en fait. Donc j'avais installé 1Password et j'avais trouvé ça pas mal en fait. Et puis depuis je l'utilise, donc c'est pas mal. Et tous les accès, personnellement, tous les accès de mes clients, FTP, machin, tout ce que tu veux, SSH et tout, je les mets là-dedans. Et donc, ouais, j'ai rien qui traîne dans la machine en fait.
C'est vraiment là où je voulais en venir. C'est exactement ça. C'est que en fait, au-delà de nos propres variables d'environnement, on va souvent aussi avoir les accès clients. Et exposer, en tout cas, moi, je considère que exposer mes variables d'environnement, ça craint. Mais exposer les variables d'environnement ou les comptes de mes clients, c'est encore pire. C'est faute grave pour moi, c'est vraiment faute grave. Donc nous, si on doit gérer des comptes clients, un gestionnaire de password, c'est obligatoire. On ne peut pas faire sans. C'est même pas on discute. C'est évidemment, j'ai encore vu, alors pas dans le monde du dev, j'ai pas vu ça dans le monde du dev, mais dans le monde de l'entreprise, le fichier Excel. Le fichier Excel avec
ça,
tout.
C'est bon, ça.
Et la meuf, super fière, me dit « Non, mais t'as vu, c'est tout bien rangé. Hein. C'est tout bien rangé. »
Ah, c'est parfait pour le mec qui tombe sur le fichier.
Et t'es là, tu fais « What ?» Donc, c'est lunaire. C'est vraiment lunaire. Mais ça existe encore. Après, je pense que dans la tech, on est déjà beaucoup, beaucoup mieux familiarisé avec ça. Après, que vous soyez sur Android ou sur iPhone aussi, et de manière native, maintenant, les OS ont des gestionnaires de password assez simples. Mais c'est au moins stocké quelque part. Et c'est pas en clair. Voilà, il faut plusieurs niveaux de sécurité pour accéder à toutes ces données. C'est déjà ça, c'est pas l'idéal, mais ça a au moins le mérite d'exister.
Il faut bien comprendre aussi qu'en tant que prestataire, tu es responsable en fait. En cas de... Bon, déjà, tout ce qui est RGPD, tout ça, on est déjà responsable des données. On doit assurer la sécurisation des données personnelles, etc. Mais en plus, les mots de passe, tout ça, tu es responsable. Si demain, il y a un leak et qu'ils s'aperçoivent, que ça vient de toi parce que tu l'as... T'as mis ton ordi dans le train, tu l'as laissé ouvert, t'as été aux toilettes et puis quelqu'un a chopé des trucs. T'es responsable, donc pénalement, hein, évidemment. Et donc voilà, faire attention à ça parce que ça peut aller loin, quoi. Ouais. Et récemment, je crois qu'il y a 2 jours ou 3-4 jours, Boulanger a annoncé qu'il s'était fait encore leaker une fois de plus. Voilà, avec toutes les informations des clients, tout ça. Donc, va savoir d'où ça vient. Certainement un mail avec un clic dessus. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon.
Ouais, ils ont réussi à rentrer. Ouais, en tout cas, attention à ça. Gros fan de ProtonMail, perso. Tu vois, je te valide. Alors, moi, j'ai déjà fait le switch. Je suis passé de Dashlane. De ProtonPass, ouais. Ouais, pardon. Je suis passé de Dashlane où j'étais bêta-testeur depuis très, 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 très longtemps et j'ai lâché mon Dashlane pour ProtonPass parce que je suis passé sur la suite, tout ça. On mettra de toute façon tous les liens en bas de
Ouais.
l'épisode si vous voulez aller voir et ça peut être sympa. Par contre, parfois, ok, ça, toutes ces données, elles vont être sur notre ordinateur, mais parfois, en fait, sur le projet, on va avoir des externes, on va avoir des gens qui sont hors entreprise, et là, comment on fait pour gérer ça?
Bah ça c'est le bah ça c'est aussi c'est la c'est spécial parce que justement bah allez, aujourd'hui je vais raconter ma vie. Une des dernières missions que j'ai fait avec une agence bah ils me partageaient les points env tout ça enfin toutes les variables dans l'environnement mais sauf qu'à un moment donné ils avaient un abonnement à Elasticsearch enfin un système de recherche et
Élastique
là
quoi?
bah ouais bon chacun utilise ce qu'il veut. Je sais plus trop, mais enfin voilà, ils avaient des accès et là ils ont tiqué, ils étaient pas trop chauds pour me les donner, tout ça, etc. Donc tu vois, on est passé sur une alternative où il y avait pas d'accès, machin. Et tu vois, et donc en tant qu'externe, c'est pas qu'ils me faisaient pas confiance, mais ils voulaient pas que ça traîne en fait dans la nature, en
Ouais,
fait, les accès
bien
à
sûr.
ce service. Donc tu vois,
Ça se tient,
là
ça se
on
tient.
arrive, voilà, on arrive sur un point où c'est compliqué en fait. Bah j'ai un externe, et ça arrive assez régulièrement d'avoir des externes, des stagiaires, hein, des stagiaires en dev qui viennent 3 4 mois. Tu leur donnes des accès, après ils partent et tu sais pas ce qu'ils vont faire de ces accès. Est-ce qu'ils vont les effacer ou quoi? Ça va traîner ou est-ce qu'ils vont se faire voler leur ordi et ils seront dessus? Enfin voilà, ça peut. Donc là, c'est un peu délicat, ouais, avec les externes souvent. Ouais.
Et ouais, c'est beaucoup, beaucoup, mais c'est le cas de plus en plus parce que beaucoup de boîtes utilisent des prestataires extérieurs. Ou pareil, un stagiaire, il est là pendant 3 mois, il fait son stage ou 6 mois. Une fois que la personne part, qu'est-ce qui se passe?
Ouais, c'est clair.
Il a accès aux données et tout ça, donc c'est un peu plus compliqué quoi. Sur le travail en équipe, on va aborder. Il existe des solutions qui sont plutôt pas mal. On parle un petit peu des frameworks en fait dits modernes. Et qui aujourd'hui en fait y a un mix entre du front et du back, donc c'est des frameworks on va dire hybrides ou full stack ou je sais pas comment tu peux appeler ça, quel nom
Ouais, hybride,
marketing nous ont sorti, quel nom l'équipe du market a sorti, mais toujours est-il qu'il y a un mix entre du front et du back. Et en fait on le disait tout à l'heure, tous ces nouveaux frameworks en fait ont pris une sorte de convention sur leurs variables d'environnement. Souvent, ils viennent préfixer avec le nom du framework, donc Next ou Nuxt, et derrière, ils vont encore préfixer public ou pas. Ce qui fait que, en fait, quand tu écris ta variable d'environnement, ça va être très clair et très explicite sur le fait que tu vas exposer cette valeur au public. Et ça met une sorte, en fait, un peu de garde-fou, mais où tu viens, en fait, vraiment conscientiser le fait que ça, mec, ça va être public. T'es OK avec ça? Et je trouve que c'est plutôt bien parce qu'en fait, c'est une sorte de niveau de sécurité, mais en fait, par design, en fait, dans la conception dans laquelle ils ont fait leur framework, c'est implicite et je trouve ça vachement bien, en fait, et bah, c'est toujours mieux, quoi.
Ouais, c'est pour éviter les erreurs. C'est vrai que tu peux vite te retrouver. Parce qu'en fait, il faut effectivement, quand tu as le SSR, le côté serveur et le côté front, en fait, le côté front est compilé. Et si tu as une variable d'environnement qui est compilée en même temps, bah, elle va se retrouver visible dans le code source. Donc le fait, ouais, comme tu dis, de mettre public, tu dis, ouais, ok, celle-là, elle va être front, public, on y a accès,
C'est chaud,
etc. Donc
quoi.
c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est pas très vieux, hein, Next.js, il me semble pas qu'ils l'ont mis. Enfin, ça fait pas 10 ans que ça existe, hein, mais
Non, c'est clair.
je trouve que c'est une bonne méthode. C'est sur Next, c'est sur Next, et puis sur d'autres, évidemment. Donc ça, voilà, c'est. Alors des fois, évidemment, quand vous connaissez pas bien le framework, si vous mettez une variable d'environnement et vous dites, putain, mais je comprends pas, j'arrive pas à l'avoir en front, mon ID de Google Maps. Bah en fait, c'est juste parce que vous avez oublié de mettre next underscore public. Voilà.
Ouais, préfixé, comme toujours, bien comprendre le système de tous ces frameworks en fait qui sont dits, on va dire, très implicites, où ils vont faire plein de choses pour vous. En fait, bah, il faut bien respecter la convention. Si on ne respecte pas la convention et on sort des guidelines, et bah, tout de suite, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué.
Ouais.
Autre sujet aussi qui peut être hyper polémique, ou en tout cas qui peut être sensible, en fait, c'est toutes les clés SSH. Tout simplement, potentiellement, on va pouvoir se connecter à une machine distante, on va se connecter à son compte AWS, OVH, n'importe qui, DigitalOcean ou n'importe quel opérateur qui fait de l'hébergement, Scaleway, et on va avoir en dur, dans notre ordinateur, des clés SSH et potentiellement, alors la majorité des OS maintenant ont un niveau de où ils encryptent, en fait ils vont encrypter ton disque dur, donc ok c'est déjà bien, mais parfois c'est pas suffisant quand même, et en tout cas comment on va exposer ces clés SSH. Tout simplement, il y a plein de systèmes qui te permettent en fait de mettre ces clés SSH à travers ces petites clés. Alors, pour ceux qui nous voient sur YouTube ou en tout cas qui voient la vidéo, c'est une clé YubiKey et qui en fait est une clé physique tout simplement et qui permet en fait c'est comme un trousseau de clés mais physique, au lieu d'avoir un token d'accès bah tout est c'est une
mais comment ouais mais comment ça marche en fait, parce que moi tu vois j'utilise pas ça, moi enfin je suis à l'ancienne clé SSH classique sur la machine, donc si demain on prend mon ordi bon si on a mon empreinte, alors on coupe le doigt aussi parce qu'il faut une empreinte digitale, mais quoi que le Mac évite tu peux éventuellement rentrer dessus, mais avec l'historique sur mon terminal tu peux rentrer sur un serveur tu remontes en arrière et hop t'as la clé SSH. Comment tu fais avec une YubiKey, c'est quoi, c'est encrypté dessus tes clés SSH, c'est
en fait automatiquement, tu vas associer en fait ta clé SSH, il y a une partie publique et il y a une partie privée, et en fait là il y a la partie là-dessus en fait t'as la partie privée. Et donc, en fait, ta partie publique, par définition, elle est publique. Et toute ta partie privée, tu vas utiliser celle-ci, en fait. Et donc, c'est en ça où tu viens casser cette relation parce que tes clés SSH fonctionnent avec
Tu es obligé de brancher la clé à chaque fois, en fait.
Oui.
À chaque fois que tu veux te connecter à un SSH, tu mets ta clé YubiKey et...
Exactement. Okay. En fait, c'est si on essaye de simplifier le truc, c'est vraiment ta clé, c'est une clé physique dans un verrou, quoi. T'as un verrou. Si tu ne mets pas ta clé, tu ne peux pas accéder au service. C'est vraiment une clé physique. Donc voilà.
Et t'as aussi. Tu voulais ton ordi, mais ça marchera pas sans la clé.
Exactement. Exactement. Si t'as pas la clé, t'es baisé. Par contre, ce qui prouve aussi que ça m'est déjà arrivé, où tu oublies ta clé.
Ah, et là, t'es mal.
Ah bah c'est simple, tu prends le laptop, tu clapes et tu rentres chez toi et c'est fini. Voilà, ce qui veut dire aussi que si tu as perdu ta clé et c'est le seul accès que tu as, bah t'es baisé. Donc ça veut dire qu'il te faut plusieurs clés, il te faut donc c'est quand même contraignant, mais c'est quand même pas mal. On voit aussi alors on pourrait faire un épisode sur sur les clés SSH et comment on gère ça, mais pour le coup il faudrait plutôt faire un espèce de tuto. On voit aussi de plus en plus en fait l'utilisation des passkeys. Où en fait, je pense qu'on connaît tous le côté avec l'iPhone, là, le Face ID ou le Touch ID avec son doigt. En fait, ça utilise les passkeys et je pense que, mais ça c'est mon intime conviction, que ça fait aussi partie de l'avenir de l'authentification. Parce que quand je vois ma mère en fait, qui galère avec ses mots de passe, en fait, la majorité des gens ne sont pas en capacité à gérer beaucoup de mots de passe. Nous, on est des devs, donc ça passe. On est plutôt familiarisé avec ce système-là, mais le grand public, lui, ne l'est pas. Et donc, en fait, les passkeys en fait, vont utiliser ta clé de machine en fait, pour t'identifier. Donc, c'est une autre solution qui marche plutôt bien et tu peux en fait, associer ce passkey en fait, avec ton Face ID ou ton Touch ID. Et en plus, Apple a été hyper ouvert. On peut faire notre application, on peut faire du web avec les Touch ID et les Face ID et tout ça, quoi. Donc c'est plutôt
Ouais.
cool à utiliser. Pour le coup, ils n'ont pas fermé ce truc. Ça marche vraiment pour le web. Donc ça, c'est plutôt bien. Et en fait, on n'a pas à stocker toutes ces données-là. On rebalance la propriété. Enfin, nous, en tant que développeurs, on n'a pas à gérer ça. On va gérer l'implémentation, mais on va pas gérer les données sensibles parce que bah, ça sera tout balancé chez l'utilisateur, quoi. Allez,
Ah, de
on
toute façon,
re...
c'est pratique. Ça, c'est super pratique, même, je veux dire, au quotidien, sur l'iPhone, tout ça, le Face ID, tout ça, quand tu te connectes aux applications de la banque, tout ça, t'as pas besoin de taper le mot de passe et tout.
Et ouais. Et
Y a
ouais.
pas photo. Mais le
Pour...
SSH, après, ça me fonctionne le passkey pour le SSH, tu arrives à. J'ai jamais vraiment vu
Non, non,
ça.
non, non,
Ah, ça marche pas.
c'est deux choses différentes. C'est vraiment deux choses
D'accord.
différentes.
Ça serait cool, hein, d'avoir un
Mais
truc Face ID pour le SSH.
pour le coup, tu vois, moi, je suis intimement convaincu que l'avenir, ça sera passwordless, quoi. Tu vois, ça sera
Oui,
utilisé
alors ça, on est d'accord.
d'autres. C'est voilà, ça, c'est, j'en suis convaincu. Donc, c'est à nous, en fait, de développeurs, de mettre en place des choses pour pouvoir gérer ça. Allez, on aborde un autre sujet qui est, pour le coup, en fait, bah, le travail en équipe. Comment on
Ouais.
fait pour travailler en équipe? Parce que quand on est tout seul, on est plutôt d'accord avec nous-mêmes. On se passe, sauf si on a des problèmes psychiatriques, mais ça, c'est autre chose. Mais souvent, on est en équipe, on va avoir deux, trois développeurs minimum, et parfois des beaucoup plus grosses équipes. Et comment on fait pour partager ces variables d'environnement?
Bah écoute, la plupart du temps, alors quand on est une équipe de dev, la plupart du temps, les devs ont plutôt accès aux environnements de dev, donc c'est pas très gravissime. Mais souvent, ouais, y a le dev, le staging, la production, il y a plusieurs environnements, comment on les partage. Ouais, alors .env, c'est un fichier, ça reste sur la machine. Des fois, il faut les mettre à jour, ils sont pas à jour. Attends, file-moi le nouveau token, machin. Enfin voilà, ou le nouveau token Sentry. Voilà, t'as des trucs comme Sentry, tout ça. T'as pas mal de trucs, voilà, où ça peut être. Il y a aussi, alors le truc classique, ah, je me suis planté, j'ai pris Sentry de prod au lieu de prendre celui de dev, j'ai pourri les logs. Enfin voilà, c'est truc classique. Donc, déjà, la plupart des Vercel, Netlify qu'on utilise beaucoup en tant que web dev, eux, ils ont déjà des systèmes de variables d'environnement par environnement, tout simplement. Staging, production, machin. Donc, quand tu déploies les pull requests, tout ça, machin, en preview, il va prendre les développements. Sinon, il va prendre les productions quand c'est la branche main. Ça, c'est vraiment dispo sur pas mal de services, hein, c'est automatique. Mais après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les déploiements aussi?
Bah, après, tu vas avoir ton pipe de déploiement ou de test, en fait. Potentiellement, tu veux
Ah oui, il y a
avoir
ça aussi, les tests, ouais, c'est vrai ça.
ton environnement. Donc, voilà, c'est pas gênant. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut éviter de partager les données, en fait, en clair. On le disait tout à l'heure, email,
Sur Slack?
Slack. Sur Slack, sur voilà, ça c'est carton jaune, mais très très orangé rouge. Aujourd'hui, il y a des solutions qui nous permettent, en fait, je sais que ProtonPass, en fait, permet d'envoyer un token sécurisé et tu lui dis ok, tu peux l'ouvrir que deux fois ou c'est viable pendant 24 heures. Au moins, c'est sécurisé par un service tiers. On va y venir, on va en parler des services tiers. Mais au moins, tu permets d'envoyer de l'information sensible, mais elle n'est pas écrite dans le marbre, quoi. Et donc, ça, c'est vraiment le concept qui est important à retenir de quand je partage une information sensible, quelle trace elle va laisser dans le temps. Que ça soit sur le repo Git ou sur une app de messagerie, quoi.
Yes,
C'est clair.
carrément.
Et donc on arrive à la solution, en fait, où là, en fait, on va avoir des logiciels et des services tiers qui s'appellent, bah, des secrets managers, on va dire des secret managers software. Alors, ça va être des solutions. Je sais que OnePassword gère déjà le côté collaboratif, mais là, on va vraiment être sur OnePassword. Ça peut être aussi bien pour la société ou de manière globale. Là, sur les Secret Manager, on est vraiment sur des solutions orientées pour les devs. C'est-à-dire, on va vraiment oui. avoir quelque chose de spécifique et de vraiment orienté développement ah ouais, pour, ouais. pour nous tous, quoi. Ouais.
Ouais, parce qu'en fait, c'est stocker les variables d'environnement, c'est cool. Mais derrière, il faut pouvoir les utiliser. C'est-à-dire que bah, déjà en local, sur Docker éventuellement, ou sur Vercel ou Netlify ou d'autres, voilà, il faut pouvoir à un moment donné les injecter. Donc il faut que ces services ils offrent bah, des CLI, des trucs comme ça, des API pour bah, aller chercher les variables et les injecter directement quand tu vas builder le projet ou des choses comme ça.
Ouais. Alors soit ils le font de manière native, soit ils font appel à des services tiers. Et c'est justement là où on va commencer à parler de tous ces services. Alors, il en existe plusieurs. Il y a Doppler qui fait ça, qui est déjà en place. Après, chacun va avoir des formules, en fait, en tout cas, un niveau d'offre qui est un petit peu différent. Par contre, leur but, c'est quand même de sécuriser, en fait, tous les mettre un layer de sécurité sur toutes ces données sensibles. Évidemment, on ne peut pas faire sans ArchiCorp, qui est vraiment la grosse machine de guerre. Ils ont un système qui s'appelle Vault, donc vraiment quelque chose de dédié pour la gestion des secrets. Parce que dès qu'on arrive sur des secrets, on va dire sur des fournisseurs natifs, je pense à AWS, à Google Console et à Azure, là potentiellement ça va être assez critique en fait, et ça va être souvent on va avoir plein de variables d'environnement. Ça peut vite être très très complexe à gérer. D'où l'émergence en fait de tous ces services qui te permettent en fait de gérer tout ça. Et on connaît sur double slash notre affection pour l'open source. Ouais. Et en fait, il y a une solution donc, qui est soit hébergée en cloud, soit qu'on peut auto-héberger nous-mêmes, justement, où on va pouvoir gérer tous les secrets management. Et on va, en fait, au lieu d'injecter en fait en dur, on va mettre une sorte d'intermédiaire, de layer intermédiaire dans notre code, et c'est ce service-là en fait qui va prendre le relais et qui va en fait substituer les clés, et donc ce qui permet aussi de pouvoir utiliser des clés en fait, que des personnes puissent utiliser des clés sans voir les clés.
Ouais, ça c'est top.
Et je pense par exemple au stagiaire qui vient pendant 3 semaines. Lui, il n'a pas à voir la clé de prod, par exemple. Il n'a pas besoin de l'avoir. Néanmoins, il lui faut quand même sa machine, il faut qu'il puisse travailler. On va lui donner les clés de dev, mais on ne va pas lui donner les clés de prod, on ne va pas lui donner le staging parce qu'il n'a pas besoin, le test, oui. Et en fait, on va avoir un niveau de granulométrie assez intéressant. Et tous ces services-là, en fait, sont connectés avec tous les services majeurs, quoi. Donc, GitLab, GitHub, évidemment, Vercel, Netlify, Heroku, OVH, et tous ces systèmes-là, quoi. Azure, évidemment, ouais. Tous les...
Et puis ça marche avec pas mal de frameworks aussi, Laravel, tout ça, enfin, voilà, ça fonctionne directement. Donc tu peux vraiment l'utiliser soit sur différents clouds, différents frameworks, voilà, c'est assez compatible.
Par contre, ce qui est sûr, c'est que potentiellement, tu vas avoir quand même un coût à la mise en place de cette solution-là. Ça, c'est quand même, c'est pas rien. Je pense que c'est une vraie migration. Je pense que c'est adapté pour des équipes qui commencent à être un petit peu conséquentes, qui sont structurées avec peut-être des devs, des lead devs, ou avec différents départements. Voilà. Ouais, si on est deux ou trois devs, c'est peut-être too much, quoi.
Je pense qu'il y a une notion d'équipe, combien on est dans l'équipe. Il y a aussi, je pense, une notion de projet, en fait. Tu peux être seul, mais si tu as 30 projets que tu déploies pour des clients, tout ça, ça peut être quand même peut-être plus facile de gérer via un tableau dans une physical avec les différentes variables plutôt que à chaque fois dans le fichier machin attends. Puis c'est stocké là, c'est pas forcément. Du coup, tu doubles pas avec OnePassword ou ProtonPass, tu vois. Enfin voilà, je sais pas.
Ouais,
après,
ça se tient. Après, peut-être que ça peut se suffire en fait, le fait d'être d'utiliser ce système-là pour juste mieux gérer, même en étant
ouais,
seul.
Ouais, une meilleure gestion. Ouais.
Ouais, peut-être. À tester, à tester. En fait, moi, j'ai peur que si tu veux, le coût de l'implémentation soit un peu trop fort par rapport aux gains que tu pourrais avoir à travailler seul. À travailler en équipe, c'est indéniable, c'est même pas en discute, ça c'est clair.
Ouais.
Tout seul, je sais pas. Je pense qu'il faudrait tester pour voir un petit peu le truc et ça peut être sympa. On a un compère, Johan Dev, qui a fait une vidéo assez récente sur le sujet où justement il vient un peu crash tester ce système-là.
Ouais, il a fait une vidéo, c'est la dernière vidéo, une physical, là, sur une physical. Donc, il fait voir comment ça s'installe. En fait, il survole un peu le truc, hein, il ne va pas trop profond dans les détails, mais voilà, il l'installe sur un cloud. Ensuite, il fait voir comment, dans Docker, en fait, dans le Dockerfile, tu peux importer en fait, les variables d'environnement en physical. Et il fait voir aussi, quand tu changes dans une physical, en fait, tu vas modifier la valeur, ça met automatiquement à jour la valeur aussi dans le Docker, sans que tu aies à retoucher en fait, le Dockerfile. Donc ça, c'est pas mal.
Okay.
C'est pas mal, en fait, je trouve, pour ne serait-ce que cette partie-là où tu vas mettre à jour la clé, tu vas redéployer, tu n'as même pas besoin de toucher tu vois, le moindre fichier pour que ça soit mis à jour. Ça se met tout de suite à jour dans ton projet, donc c'est pas mal. Non, moi j'ai regardé la vidéo, je trouve ça très intéressant. J'ai jamais encore utilisé de Secret Manager, mais je pense que je vais peut-être m'y mettre dans pas longtemps.
Peut-être pour tester. Nice.
Tester, ouais. Tu sais, au bout d'un moment, tu as commencé à accumuler pas mal de variables d'environnement.
De projet. Non, mais c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est évident. Que,
ouais.
C'est clair. C'est
donc,
clair.
Ouais. Moi, j'ai bien envie de tester. Ouais.
Nice. Bah, tu nous diras.
Ouais.
Il y a une autre solution aussi qui peut être envisageable, mais peut-être pour des tailles d'équipe un petit peu plus modérées, on va dire, c'est un site internet qui s'appelle .env.org, où en fait tout simplement le concept c'est le Dropbox des variables d'environnement. En clair, en fait on va synchroniser toutes les variables d'environnement entre les devs. Donc par exemple on est deux ou trois devs à utiliser sur le projet, je vais inviter mes collègues sur ce projet sur cette plateforme là et eux vont récupérer un token. Ce token va leur permettre en fait de synchroniser toutes les variables d'environnement. Et donc ça peut être super utile parce que en fait on vient introduire un tiers. C'est vraiment on imagine le Dropbox ou sur le cloud, c'est un service, donc c'est payant, mais je crois que c'est gratuit pour les trois premiers teammates, donc les collègues. Jusqu'à 3, on est limité sur toutes les features, mais après c'est $4 par utilisateur et pour avoir toutes les fonctionnalités.
Mais déjà ça... gratuit, pas mal de choses. Hein.
Mais ce
en
qui
gratuit,
permet
déjà, c'est une limite
exactement.
Project.
Exactement.
Ouais.
Tu peux déjà passer par là. Après, ça peut être aussi une solution pour sécuriser toi tout seul tes variables d'environnement.
Ouais.
Voilà. Ok, tu viens mettre un tiers dans la boucle. Évidemment, si tu n'as pas confiance en leur service, n'y va pas. Là-dessus, on est d'accord, sinon ça ne sert à rien. Mais c'est plutôt, évidemment, ils ont une intégration parfaite avec aussi bien toutes les bases code que toutes les bases infra. Et ils ont une petite fonctionnalité que je trouve hyper sympa, où en fait, dans clock, ça s'appelle auto-clock ou un truc comme ça, c'est en fait dans ton VS Code ou ton JetBrain ou ce que tu veux, en fait, quand tu arrives dans ton fichier .env, quand tu l'ouvres, en fait, par défaut, en fait, toutes tes valeurs, donc tu vois les clés, donc par exemple database URL égale, donc tu vois la clé, mais tu ne vois pas en fait la valeur. Il y a un énorme bandeau noir dessus, ce qui te permet en fait de, toi tu dois cliquer sur un petit truc qui est venu en fait tout en haut de la page pour dire afficher. Ce qui fait que je pense par exemple aux streamers ou aux youtubeurs qui streament du code et qui potentiellement en fait leak des variables d'environnement, qui passent des heures à tout reconfigurer. Avec ce petit système-là, en fait, déjà, ils n'exposent pas leurs variables d'environnement. Après, je pense pour des personnes qui travaillent un peu à droite, à gauche, potentiellement, ouais. Vous travaillez dans un café ou dans... Alors, je sais qu'on est en train de devenir complètement parano quand on parle de sécurité, mais on est dev, donc à la fin, on finit parano par définition, parce qu'on est dev. Mais voilà, potentiellement, tu travailles dans un avion ou je ne sais pas quoi, tu vois, tu ne veux pas exposer tes variables d'environnement. Potentiellement, tu peux utiliser ça pour cacher tes variables d'environnement et tu cliques dessus pour les afficher et tu cliques pour les masquer. Ouais. Je trouve cette petite fonctionnalité plutôt sympa. Ouais. C'est plutôt sympa.
Ouais, c'est pas mal. Ouais. Je vais l'essayer. Je pense que celui-là, je vais l'essayer. Peut-être aujourd'hui. Ouais, tiens. Allez, go.
Facile, facile.
Vas-y, j'installe dans le VS Code et je me fais un compte et c'est parti.
Super facile. Après, il existe d'autres systèmes aussi qui s'appellent Envolt. Voilà, on va avoir plusieurs services qui vont faire à peu près la même chose.
On a aussi dans les fournisseurs de cloud aussi des systèmes natifs aussi, AWS, GCP, tout
ouais.
Ça.
Ouais. Alors par contre, ils vont pas toujours gérer les teammates, enfin les collègues. Donc c'est plus complexe à mettre en place. Et donc le fait d'utiliser des logiciels secret manager, un intermédiaire. En tout cas, s'il y a eu ce service qui s'est développé, c'est que justement les providers natifs en fait ne répondaient pas à toutes les demandes des entreprises. Et c'est pour ça qu'il y a des intermédiaires qui sont venus, qui se sont créés, qui ont répondu à ces besoins-là, parce que les cloud natifs ne le font pas toujours quoi. Et ça peut être super quoi. Et puis t'as qu'à voir la console d'AWS quoi. C'est
non.
C'est un viol visuel le truc quoi. Tu vois. Donc
non.
Donc mais pour le coup en fait on voit quand même une tendance. On voit encore un blogueur là qui disait qu'il fallait arrêter avec les variables d'environnement et qu'il fallait passer vraiment
à des logiciels ouais.
Sur des
secret manager ouais.
À des secret managers quoi. Au moins en tout cas gérer les fichiers secrets et les points env avec ouais. un tiers et éviter et arrêter de gérer ça à la mano à l'ancienne quoi tout simplement à l'ancienne.
Mais d'accord. Voilà, en tout cas, il y a pas mal de solutions. En plus, il y a du gratuit, il y a du self-hosted, donc il y a quand même pas mal de choix. Le .env qui se met sur VS Code, je trouve ça pas mal avec la version gratuite, qui sera peut-être pas gratuite tout le temps, mais en tout cas, ça reste toujours des sommes modiques, ou même OnePassword ou des choses comme ça, les gestionnaires de mot de passe, c'est pas hors de prix. Je crois que ProtonPass à l'année, si tu prends un truc à l'année, ça te coûte 1,99€ par mois, je crois. Enfin, franchement, ouais. C'est pas le bout du monde, quoi. C'est un café, quoi. Enfin, un café, pas à Paris, mais.
Ouais.
Donc, je veux dire, ça coûte pas très cher. Et après, en fait, c'est juste une habitude à prendre, en fait. Hein, voilà. Mais après, il y a toutes les extensions dans les navigateurs, dans les OS, dans le téléphone, tout ça. Donc, voilà, il n'y a pas de frein aujourd'hui qui fait que tu vas pas utiliser un gestionnaire de mot de passe.
Il n'y a plus d'excuses, les gars. Vous n'avez plus d'excuses.
Ouais.
Yes.
C'est clair.
Parfait.
Bah voilà.
Et bon, on en reste là. Merci Patrick.
Ouais, c'est bon.
Merci d'être resté jusqu'au bout de l'épisode. À plus. Ciao ciao.
Merci à tous. Ciao.
Retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, les références évoquées durant l'émission.